Eh bien, nous retrouvons Corinne Baranger, notre chroniqueuse développement durable. Bonjour Corinne.
Bonjour Xavier.
Alors Corinne, aujourd'hui on va parler de zones piétonnes dans les milieux urbains. Alors on en discutait un petit peu lors d'une conversation. Dans les villes européennes et nord-américaines, on voit des zones piétonnes de plus en plus. Il y en a quelques-unes, par exemple, dans certaines villes françaises dont on parlait il y a quelque temps, et puis aussi bien sûr à Toronto, je pense par exemple au marché Kensington. Alors la première question que j'ai pour toi, Corinne, c'est qu'est-ce qu'on définit justement, comment est-ce qu'on définit une zone piétonne? Parce qu'il faudrait d'abord s'entendre sur les termes.
Exactement. Alors, on parle de zone piétonne ou aire piétonnière. On trouve différentes formes. En fait, ce sont des espaces qui sont essentiellement réservés aux déplacements non motorisés, c'est-à-dire pas un véhicule avec un moteur. Voilà. Les autres modes de déplacement peuvent s'effectuer, mais pas avec un moteur. Alors, ces zones peuvent être non motorisées de façon permanente. Mais ce que l'on voit beaucoup, ce sont des zones qui sont fermées à la circulation pendant la journée et éventuellement ouvertes le soir. J'ai vu ça, par exemple, sur la ville de Québec, où dans la journée, pas une voiture ne passe. Le soir, le trafic peut s'effectuer pour ravitailler les commerçants, etc. Voilà.
D'accord. Alors, maintenant, la question que j'aurais pour toi maintenant, c'est quels sont les avantages? Alors, pourquoi est-ce que l'on voit de plus en plus de ces zones piétonnes installées, soit temporaires ou bien même permanentes? Qu'est-ce qui motive les villes à prendre ces mesures?
Alors, déjà, au niveau historique, bien sûr, autrefois, on marchait. Hein. Dans les villes du Moyen-Âge, jusqu'à l'avènement de la voiture, beaucoup de personnes se déplaçaient à pied. On a vu une renaissance de ces zones piétonnes, de l'intérêt de remettre ces zones à la portée des piétons dans les années 50. Hein, en Europe, on a vu plusieurs exemples aux Pays-Bas, en Angleterre. Des modèles qui se sont développés après en Europe. C'est vrai, je connais un petit peu plus les villes en France. Bon, un quartier particulièrement notable, c'est le quartier de Montmartre à Paris, où on a vu vraiment se développer ces zones. Mais ces zones se sont développées plus particulièrement dans des zones touristiques ou commerciales. Hein, c'était vraiment l'attrait, je dirais plus le tourisme, hein, au-delà même juste du commercial, le tourisme, donc avec des boutiques effectivement, mais c'était l'intérêt principal. Donc les avantages des rues piétonnes, bien aujourd'hui on assiste à une densification des villes. Donc il faut être réaliste. Hein. On met plus de monde en ville, on va pas pouvoir donner une voiture à chacun. Ça, c'est irréalisable. Donc il faut que les modes de déplacement se transforment. Et on n'a pas d'autres solutions, on n'a pas d'autres alternatives dans les grandes villes. Je parle pas des campagnes, c'est une autre problématique. Mais dans les centres-villes qui sont denses, il faut qu'on trouve des modes alternatifs, d'où l'importance du transport en commun. Et dans certains quartiers, les quartiers qui sont particulièrement fréquentés, et c'est vrai qu'on pense davantage aux zones commerciales, eh bien, il faut pouvoir se déplacer à pied. Alors, l'un des premiers intérêts, je dirais, c'est pour la santé. La santé, parce que d'abord, vous faites de l'exercice, et ça, tous les médecins en ce moment le recommandent. Les gens ne bougent pas assez, on reste trop assis, on garde trop les écrans. Il est important de pouvoir bouger. D'un point de vue de la santé aussi, le fait qu'il n'y ait plus de véhicules à moteur, eh bien, l'air est plus respirable. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans un monde idéal où les voitures sont électriques, mais aujourd'hui, malheureusement, la plupart des voitures ou véhicules, camions ou autres polluent. Ces zones, étant restreintes à la circulation motorisée, font qu'on peut aussi développer de l'art, des espaces verts. Des espaces verts, ça ne veut pas dire forcément créer un parc, mais avec une voie de circulation, mais avoir des arbres, avoir un peu plus de verdure, des jardinières, et déjà cela va aussi diminuer le taux de pollution, et aussi faire qu'en été, ces eaux sont plus tempérées, donc plus agréables à vivre. Dans le domaine de l'exercice pour la santé, il y a un concept que j'aime bien qui s'appelle le pédibus. pour les enfants, qui est une façon d'aller à l'école. Une personne passe vous chercher, aujourd'hui on passe vous chercher avec un bus scolaire, c'est de passer dans un quartier, chercher les enfants un à un, mais de marcher. C'est-à-dire que la personne prend les enfants et les emmène en marchant. J'aime beaucoup ce concept. Donc, un et pas des moindres, qui est aussi le fait de pouvoir socialiser. L'homme, l'être humain, est un être social. Et quand on est chacun dans une voiture, eh bien, il n'est pas facile de communiquer. Bon, je sais bien qu'il y a plein de moyens aujourd'hui pour communiquer de voiture à voiture, mais ce n'est pas le même type de communication que lorsque vous rencontrez une personne. Et c'est vrai que de recréer ces espaces, on recrée des espaces de socialisation, aussi l'intérêt de créer des espaces comme ça va donner un peu plus de place pour aménager des terrasses, ouvrir des restaurants, ouvrir des espaces communautaires, des espaces scéniques. On peut imaginer, je pense juste à une transformation qui a eu lieu à Boston, où maintenant, dans un espace qui a été recréé, eh bien régulièrement, on voit des petits concerts ou des fanfares ou un orchestre de chambre qui viennent jouer. Et ça, je trouve que c'est vraiment très positif, quoi.
Et là, on parle de l'aspect santé, l'aspect écologique, mais parfois l'aspect économique peut être important. Alors, parfois, un argument qui est lancé, c'est que si on n'autorise pas les autos dans certaines zones, c'est pas bon pour le commerce parce que les gens ne peuvent pas venir en voiture et se garer. Qu'est-ce que tu réponds à ceci, Corinne?
Alors, la solution alternative qui a été trouvée, comme j'ai dit, bon, il n'est pas possible de redonner une voiture à chacun. Le transport en commun est très important. Et je pense à Marseille, où je suis allée il y a quelque temps, et où on a retransformé certaines rues en rues piétonnes, et au milieu, on a le tramway qui passe, donc qui permet aux gens, je dirais, à mobilité réduite, de pouvoir se déplacer dans cette zone. Ensuite, bien sûr, ces zones, dans un premier temps, vont être créées principalement pour les résidents du quartier, pas forcément pour des gens venant de l'extérieur. En ce qui concerne, je pense que pour les gens venant de l'extérieur, on peut avoir des stationnements d'aménager aux abords des villes ou aux abords des quartiers, ce qui permet ensuite, après, de se déplacer, de prendre le transport en commun et de se déplacer directement dans la zone. Mais je pense que au-delà, c'est vraiment une volonté de changer ses habitudes, de changer son comportement. Et d'un point de vue des commerces, le fait est que on voit un renouveau de ces zones dans le sens où aujourd'hui on va privilégier aussi le commerce de proximité en essayant de privilégier les produits qui vont être fabriqués dans la région. Et rien de mieux qu'un petit marché fermier, et on le voit avec les succès des marchés fermiers à Toronto, où là, les gens vont venir du quartier se déplacer et venir acheter leurs produits frais.
D'accord. Donc ça peut devenir en fait une zone économique très florissante, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser au début. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est de là que l'établissement d'une zone piétonne doit se faire. C'est pas, on n'aménage pas une zone piétonne du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit s'effectuer par étapes. On l'a vu à Toronto avec le Waterfront central. Où on a fermé d'abord une journée, on ferme pour savoir un petit peu comment aussi vont évoluer les gens dans le quartier, comment va se redistribuer le flux du trafic automobile et de voir aussi quels sont les problèmes, quels sont les problèmes d'accès, puisque on a construit tous ces quartiers en fonction des véhicules, donc il y a des problèmes d'accès. Donc il faut penser tout ça, et ça va aussi amener à repenser effectivement dans le domaine du commerce quel type de commerce va pouvoir se réimplanter. Probablement pas le même type de commerce.
Voilà. Je m'excuse, continue.
Oui, donc tout cela doit se développer en partenariat avec entre les commerçants, les résidents, les gens qui travaillent sur place, et puis les propriétaires fonciers et tous les autres investisseurs, et bien sûr les élus, les partenaires publics, bien évidemment.
Alors, tu parlais du front de mer, le waterfront à Toronto. Est-ce qu'on a d'autres exemples que tu voudrais mentionner qui valent la peine d'être discutés?
Alors, je dirais aux États-Unis, un exemple qui est particulièrement flagrant, on n'aurait jamais pensé qu'on créerait une zone piétonne dans ce quartier-là, c'est Times Square. Times Square qui est en train de se transformer en grande partie en zone piétonne. Donc là aussi, vous auriez parlé à un Américain il y a quelques années, lui dire que Times Square allait être piéton, pour les piétons seulement, je pense qu'on vous aurait pris pour un fou, quoi. Mais New York fait énormément de travail pour rendre la ville beaucoup plus piétonne. Entre autres, je veux mentionner le site que beaucoup de gens connaissent déjà, qui s'appelle walkscore.com. .com, qui classe en 5 catégories la façon dont votre ville est accessible aux piétons. Donc la ville de New York est à 87, sachant que 87, c'est la dernière tranche, l'avant-dernière tranche. San Francisco est à 84. Toronto est un peu plus bas, à 71, et Vancouver est mieux placé à 78. Donc, c'est intéressant. Vous pouvez aller sur Internet et regarder le walk score, l'accès piétonnier de votre quartier. C'est pour toute l'Amérique du Nord, ça fonctionne. Et donc, au niveau des quartiers à Toronto, le quartier qui vient, pour moi, le seul vrai quartier piétonnier de Toronto, c'est le district de la distillerie pour l'instant.
Voilà, ouais.
Un espace qui est complètement fermé aux véhicules, qui viennent la nuit, parce qu'il faut bien réapprovisionner les commerces, il y a toujours besoin de véhicules. Les véhicules, je n'ai pas mentionné aussi, c'est l'accès pour les pompiers, des passages obligatoires, bien sûr, en cas de problème. Mais à Toronto, donc le seul vrai quartier piétonnier aujourd'hui, c'est la distillerie. Le quartier de West Dunland va être un beau quartier piétonnier, puisqu'il a été conçu pour ça. C'est-à-dire que dès le départ, on conçoit le quartier pour qu'il devienne sécuritaire pour aussi toute la population, que ce soit les personnes plus âgées ou que ce soit les plus jeunes, qui puissent se déplacer, qui puissent aller à l'école, qu'il va y avoir une école sur place, un centre communautaire, un parc, etc. Donc que les gens puissent se déplacer à pied ou éventuellement en vélo. Et là, je dois dire que cet été, j'ai vu de plus en plus d'enfants suivre les parents en vélo. Et je pense que ça, c'est un réel progrès.
Pour terminer, j'apprenais que dans un mois, le 27 septembre à Paris, on va avoir une journée entière sans voiture, la ville entière. Alors,
oui,
est-ce que ce genre de campagne, tu penses, est une bonne chose et va faire la promotion?
Ça a déjà été fait au Canada. Ça a déjà été fait à Toronto. On a essayé d'encourager les gens à ne pas prendre leur voiture. Mais l'Amérique du Nord reste une région où vraiment le continent s'est développé autour de la voiture. Donc cela va prendre beaucoup de temps. Après, c'est aussi une volonté politique. Si les politiques sont derrière, il y a vraiment un mouvement. Les gens ont envie d'être en santé. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important aujourd'hui. Je pense que, et l'avenir des enfants, le fait qu'on puisse se déplacer en toute sécurité et être en santé. Pour moi, ce sont les deux facteurs principaux. Je pense que l'Amérique du Nord peut-être va nous étonner. Moi, je suis très étonnée avec certaines villes, par exemple comme la ville de Détroit, qui est la ville de la voiture par excellence, qui est une des villes les plus piétonnes en ce moment aux États-Unis.
Et voilà, la voiture, la ville qui symbolise l'automobile, en fait, est devenue...
Exactement.
Ouais, intéressant. Merci beaucoup, Corinne, pour cette très belle chronique. Et puis, on te retrouve pour une autre chronique développement durable dans quelques jours, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Quant à nous, nous continuons sur les ondes de Choc FM.